Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et puis la 8h, c'est Agnès Bonfillon qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et toujours aucune trace de Mia, cette petite fille enlevée mardi dans les Vosges.
Âgée de 8 ans, c'est chez sa grand-mère que le rapt a eu lieu. Une opération soigneusement préparée par la mère de la fillette, elle aussi toujours introuvable. 4 hommes sont actuellement en garde à vue, soupçonnés de l'enlèvement. C'est eux qui donnent les détails. Ils parlent par exemple d'exfiltration pour réunir la mère et la fille, qui pourraient désormais être à l'étranger. Déjà dans les radars des services antiterroristes, ces hommes, âgés de 23 à 60 ans, sont tous survivalistes. Mais qu'est-ce que cela veut dire précisément, Vincent Serrano ?
Eh bien, c'est une personne qui se prépare en vue d'une catastrophe. Ça, c'est le principe de base. Alors, quelle catastrophe ? Ça peut aller d'une guerre mondiale, une crise économique, une crise sanitaire, bien sûr, comme celle que nous vivons en ce moment. Et certains survivalistes, même en France, sont par exemple persuadés qu'il va y avoir une attaque de zombies. Un point commun à tous les survivalistes, ils distinguent tous ceux qui savent qu'il va y avoir une catastrophe et ceux qui ne savent pas. Et on est aujourd'hui très loin de l'image du survivaliste enfermé dans son bunker, construit dans son jardin, ou du couple qui vit enfermé, reclus dans une ferme, dans l'Arzac, par exemple, avec un potager. Alors ça existe, mais vous avez aussi beaucoup de survivalistes aujourd'hui qui continuent d'aller au travail, mais qui appliquent par exemple deux règles. La règle des trois, on ne peut pas survivre plus de 3 secondes sans inattention, 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire. Et la règle des 5 C, en gros, toujours avoir sur soi un contenant, un couteau, une corde, etc. Ce qui est sûr, c'est que le survivalisme est aujourd'hui très organisé. Vous avez des dizaines de réseaux survivalistes français sur Facebook, des vidéos tutos vues des centaines de milliers de fois sur YouTube et même un salon du survivalisme à Paris, plus de 10 000 visiteurs, mais bon, la dernière édition a été annulée à cause du coronavirus.
Éclairage de Vincent Serrano pour RTL. Un numéro de téléphone est en place. Si vous avez des informations sur l'enlèvement de Mia, vous pouvez composer le 0800 36 32 68. 0800 36 32 68. Après 6 longues semaines d'audience à huis clos, le verdict du procès en appel de Viry-Châtillon est attendu ce soir. 13 jeunes sont accusés d'avoir attaqué et brûlé des policiers avec des cocktails Molotov. C'était en 2016. Le ministère public a requis des peines allant de 12 à 25 ans de prison.
On va revenir sur le nouvel objectif de Marlène Schiappa et ses mots des quartiers sans relou.
Oui, la ministre déléguée à la citoyenneté souhaite cartographier les endroits les plus dangereux en matière de harcèlement de rue en Ile-de-France. Alors à Strasbourg, ça fait déjà plusieurs mois qu'une association se mobilise contre ce fléau. Ruelle, c'est son nom, sensibilise les commerçants afin qu'ils puissent accueillir les victimes, Yannick Collin.
Sur la porte de cette jardinerie de Strasbourg, un autocollant indique en anglais « Safe place », c'est un endroit refuge en cas de harcèlement de rue. Jennifer et Stéphane, les co-gérants de Jungle, ont très vite accepté de participer à cette opération.
D'expérience personnelle, forcément. Je suis aussi la grande sœur de 3 petites sœurs et d'un petit frère. Ils ont tous vécu ça, j'ai une de mes jeunes sœurs surtout qui a été bien embêtée, on va dire. On s'est dit, mais oui, en fait, si on savait tous qu'il y a des places comme ça, un refuge, ça libérerait peut-être un petit peu la parole.
Parce qu'une personne qui subit un harcèlement va forcément être traumatisée. L'idée, c'est plutôt de sécuriser la situation en essayant de protéger la personne et en appelant la police.
C'est Tiffany Hu de l'association Ruelle qui a eu l'idée de ces lieux refuges après avoir cartographié les endroits du centre-ville où les femmes racontaient avoir été harcelées.
Souvent, les victimes se retrouvent isolées ou alors elles se retrouvent avec des témoins autour, mais les témoins ne savent pas forcément comment réagir. Le commerce est un lieu refuge. Ça veut dire aussi que le personnel est formé. On leur dit qu'il ne faut pas jouer à Superman ou Superwoman et que justement le but c'est de désamorcer la situation.
Et tous les commerces peuvent évidemment participer. Les premiers refuges se trouvent ainsi dans une jardinerie, un supermarché et un salon de tatouage.
Le reportage de Yannick Holland à Strasbourg pour RTL. En Isère, le maire de Mélan, dans la banlieue de Grenoble, demande à ce que l'État se mobilise. La justice vient d'autoriser la construction d'une église intégriste dans sa commune et pour lui, il est fondamental d'empêcher les extrémismes, quels qu'ils soient. Vous l'entendrez dans le journal de 9h.
8h04 ce samedi, place aux professions prioritaires dans les centres de vaccination.
Oui, des créneaux sont réservés à partir d'aujourd'hui pour les enseignants, les pompiers, mais aussi les policiers et les gendarmes de plus de 55 ans. La vaccination progresse, il y a une amélioration, estime Olivier Véran. Le ministre de la Santé dit quand même rester prudent. Alors ce changement de cadence permettra-t-il une baisse rapide des contaminations et du coup une réouverture des terrasses, des musées ou encore des salles de concert très prochainement ? À Toulouse, un système est à l'essai. L'objectif est d'étudier comment les flux d'air, selon l'organisation d'une salle, peuvent empêcher la propagation du virus. Il s'agit en fait de préparer l'expérience avec un vrai public le plus rapidement possible, Patrick Tégéraud.
D'abord, on modélise la salle en trois dimensions, on y ajoute des spectateurs et des artistes virtuels et le système numérique simule les respirations. Étienne Auger est le directeur du SICOVAL, la communauté d'agglomération du sud-est toulousain.
On voit des petits points se déplacer, qui sont les aérosols et notamment le virus.
Toujours numériquement, les ingénieurs font alors varier le nombre de spectateurs, leur position, la ventilation.
Dans tel contexte, on est capable de voir comment se passe le phénomène des aérosols. C'est tout à fait ce qui s'est fait dans les avions. Voilà, l'air est plaqué au sol, il est aspiré, il est renouvelé. Ben pourquoi pas le faire dans les salles ?
L'enjeu, c'est peut-être d'établir de nouvelles normes de ventilation pour permettre l'ouverture des salles de spectacle avec un maximum de sécurité, quels que soient les virus qui circulent.
Plutôt que de refermer ad vitam aeternam toutes les salles et tous les lieux à chaque fois qu'il va y avoir un événement, nous, on dit, travaillons concrètement et investissons dès aujourd'hui pour que ces salles demain puissent rester ouvertes si ça se représente.
Une demande d'autorisation sera envoyée en préfecture la semaine prochaine pour passer de la simulation numérique à la réalité.
Le reportage de Patrick Tégéraud pour RTL. Et puis toujours concernant le Covid, dès ce soir jusqu'au 9 mai inclus, la Guadeloupe avance l'heure du couvre-feu. Celui-ci débutera à 19h au lieu de 22h depuis la semaine dernière. Une hausse des contaminations est enregistrée.
Vous restez bien là, Agnès Bonfillon revient dans un instant pour la suite du journal. Il est 8h06, nous prendrons la direction de la Grande-Bretagne car c'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques du prince Philippe. A tout de suite.
RTL. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon. La suite du journal et des obsèques du prince Philippe. Donc, c'est cet après-midi en Grande-Bretagne.
Elles se dérouleront en petit comité au château de Windsor. L'époux de la reine est décédé il y a 8 jours maintenant, à l'âge de 99 ans. Pour ses adieux, les sujets de Sa Majesté ont été priés de rester chez eux, de suivre la cérémonie à la télévision, à cause, bien évidemment, de la crise sanitaire. Mais sachant que les pubs ont rouvert, non loin de l'enceinte royale, un établissement a d'ores et déjà reçu de très nombreuses réservations, Marie Billon.
L'atmosphère est loin d'être sombre sur la terrasse de ce pub de campagne. Annie, la tenancière, a installé des fanions avec le drapeau britannique. Même la bannière reposée en paix est extrêmement colorée.
Je suis très triste pour la reine, mais ce doit être une célébration de la vie du duc d'Édimbourg. Nous lèverons un verre à sa mémoire après la minute de silence et sûrement aussi après la messe. J'offrirai à tout le monde un verre de Buckfizz, du mousseux à l'orange. Je n'ai pas les moyens de distribuer du champagne.
Dans un autre coin de la terrasse, il y a des fleurs et deux photos du prince Philippe levant son chapeau melon en signe de salutation. David a déjà réservé sa table.
Il y aura un écran juste là, donc on pourra regarder toute la cérémonie. C'est sympa d'être ici, de pouvoir célébrer le duc avec tous ces gens différents de tous âges. On saluera le prince et la reine aussi, bien sûr. On va en faire une journée en hommage au duc d'Édimbourg et de tout ce qu'il a fait pour notre pays.
Annie avait demandé à son brasseur de créer une bière spéciale pour les 100 ans du prince Philippe. Elle ne sera pas prête pour ses funérailles. Elle le sera bien en juin. L'occasion d'à nouveau lever un verre à la mémoire du duc d'Édimbourg.
Le reportage de Marie Billon à Windsor pour RTL. Seules 30 personnes seront présentes aux obsèques du prince. La reine, bien évidemment, ses enfants, mais aussi William et Harry, des retrouvailles qui vont être scruté. D'ores et déjà, on sait que les deux frères ne marcheront pas côte à côte.
Se rencontrer et se parler, les différentes formations de la gauche se retrouvent ce matin à Paris.
L'objectif est clair, il faut préparer la présidentielle de 2022, sachant que les sondages, pour l'instant, ne laissent pas beaucoup d'espoir aux différents candidats, surtout si la gauche se présente façon puzzle. C'est à l'initiative de Yannick Jadot, le patron des Verts, que cette réunion a lieu. Mais elle se fera sans le patron de la France insoumise, Marie-Bénédicte Haller.
Oui, Jean-Luc Mélenchon sera le grand absent de cette rencontre, même s'il est représenté par le député Éric Coquerel.
Monsieur Jadot était un des premiers qui expliquait vouloir réunir une candidature entre Macron et Mélenchon. Bon, bah, à partir du moment où il nous invite, manifestement, il n'est plus sur ses positionnements et c'est plutôt utile pour les présidentielles, pour le débat. En plus de ça, un jour, il y aura un deuxième tour.
Yannick Jadot et le patron des Insoumis arrivent même à se parler par téléphone, mais pas question d'une candidature commune. Un pacte de non-agression serait déjà beaucoup. Le plus agacé par l'initiative, finalement, semble être Julien Bayou, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts.
Elle sert à montrer que la gauche se parle, la gauche et les écologistes. En vrai, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des échanges. Donc, c'est utile de le montrer. Il n'en reste pas moins que nous avons un projet à adopter et une désignation à organiser Et donc, ça passe par cette primaire de l'écologie.
Une primaire prévue à la fin de l'été. Yannick Jadot cherche à tout prix à l'éviter en tentant de s'imposer comme le meilleur candidat des écolos.
Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Aujourd'hui, Jean Castex, avec son ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, effectue une visite dans trois départements, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le Premier ministre va apporter son soutien aux viticulteurs et arboriculteurs frappés par les récents épisodes de gel.
Agnès, le football, provocation ou maladresse, le nouveau président de l'Olympique de Marseille est sous le feu des critiques.
Oui, Pablo Longoria a donné une interview en début de semaine au grand quotidien espagnol El País. Il a taclé les entraîneurs français qui, selon lui, s'exportent moins bien que les autres, je cite, « parce qu'ils n'ont pas d'idée collective ». Une phrase qui a du mal à passer. De nombreux coachs de Ligue 1 lui ont d'ailleurs répondu hier lors des traditionnelles conférences de presse d'avant-match, Hugo Hamelin.
Oui, des répliques au napalm pour certains comme Fred Antonetti du FC Metz qui n'a pas goûté les déclarations du jeune Espagnol devenu très récemment président de l'OM.
Ce qu'il a fait lui dans sa vie, je crois que le président de Valence, l'un des dirigeants de Valence, l'a traité de lâche et de menteur. Ça, c'est le nouveau football, des gens qui arrivent là, des météorites qui font tous les ans change de club. Par expérience, je sais comment va finir l'histoire à Marseille.
Offusqué, les coachs français, mais sur le fond, le constat est implacable. Dans les quatre grands championnats européens, seul Zinedine Zidane est aux manettes d'un club étranger. Alors pourquoi les Français n'ont pas la cote? Voici l'explication de Bruno Genesio au micro de Philippe Audouin.
Ils n'ont pas, je ne sais pas, le look, la façon de parler, la façon d'avoir des relations avec un certain réseau qui permet qu'un résultat égal, on va faire toute une montagne de l'un et puis pas de l'autre. Voilà, c'est ça, avoir la carte. On a un entraîneur qui est champion du monde, il est français.
Et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En tout cas, avec cette interview, Pablo Longoria a donné un coup de pied dans la fourmilière du foot français, un peu dans le style de son prédécesseur, un certain Jacques-Henri Hérault.
Hugo Hamelin pour RTL. Et puisque l'on parle de Marseille, l'OM reçoit Lorient à 17h aujourd'hui pour la 33e journée de Ligue 1. Auparavant, ce sera Angers-Rennes à 12h45. Sachez qu'hier, en match d'ouverture, les Dogues Lillois ont arraché un nul in extremis hein, partout sur leur pelouse face à Montpellier. Ils ont perdu 2 points précieux hein, dans la course au titre. En tennis, pas de demi-finale pour Rafael Nadal. L'Espagnol a été sorti au Masters 1000 de Monaco par le Russe Andrei Rublev. Score 6-2, 4-6, 6-2. Et puis la France se réveille avec une championne d'Europe de judo. Amandine Buchard, déjà numéro 1 mondial, des moins de 52 kilos, a décroché son premier titre européen à Lisbonne.
12h45, le match de foot à Angers-Rennes. Bon, bien joué, bien bientôt jouer le matin, ces footballeurs là, c'est incroyable comme horaire. On parle d'un autre sport, car oui, le téléski nautique est un sport, Agnès.
Oui, c'est bien pour cela qu'il est autorisé en Loire-Atlantique, car désormais il est possible de s'éloigner de 30 km de son domicile pour se rendre sur une base nautique. Alors évidemment, les réservations sont obligatoires, la jauge autorisée est bien plus basse que d'habitude, mais cela ne décourage pas les plus accros, non, c'est carrément la ruée au téléski de nausée, Patrice Gabart.
Grande première. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'en fais ?
Là, pour passer le premier virage, essaye de passer à gauche carrément.
Bien. Ok. On prend un peu goût à la vie, hein. C'est pas mal. Ça change du quotidien.
3, 2, 1, décollage.
Un sentiment largement partagé sur le ponton de départ de ce téléski nautique de 600 mètres de long, très prisé des Nantais. Anaïs et François, deux habitués.
C'est vrai que ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir se dépenser, être dans l'eau, c'est fou. Et en plus, en plein Covid, ça fait vraiment du bien que ce soit réouvert. Je travaille, là, je reviens juste du taf, donc ça fait vraiment plaisir d'être là.
C'était un peu inespéré. Là, ça a rouvert, c'est la bonne surprise, donc tous les riders sont contents. Hein. C'est sûr que c'est une bouffée d'air pour nous. Hein.
Une bouffée d'air sur réservation par Internet, c'est obligatoire. Avec une jauge de 20 personnes par heure au lieu de 50 habituellement, Gaëtan Ferré, le gérant du Wake Park de Nozay.
Ouais, là, on va faire le plein. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et donc les gens ont besoin de s'aérer l'esprit, faire du sport et puis de rencontrer des gens. Il nous manque un peu de vie sociale et nous on est là aussi pour répondre à tout ça. Et puis un petit air de vacances bien sûr, évidemment.
Petite découverte pour moi, un peu de glisse pour des sensations et c'est très sympa.
Sarah, la débutante, vient de boucler 2 tours sans tomber à l'eau.
Finalement ça a été. Je suis plutôt fière de moi.
Alors, un beau plongeon, merci envie. Patrice Gabart, oui, ça fait du bien, même si le téléski nautique, ça n'a pas l'air très simple hein, comme ça.
Le ski nautique tout court, c'est pas très simple.
Ah oui, c'est vrai. Hein,
vous faites où ?
Bien sûr,
ouais.
Bah évidemment.
Vous aimez l'eau, vous ?
Beaucoup.
D'accord.
Un vrai poisson.
En attendant, vous revenez à 9h nous informer tout à l'heure. Merci. L'actualité, c'est l'appli RTL. On va revenir au ballon rond, au football, avec un homme qui est joueur, qui vient mouiller le maillot le samedi matin, adepte des paris.